est-ce que vous avez bien compris alors?
Mais tout est ça.
On me pose la question, c'est très bien. Merci beaucoup. On pose des questions, c'est bien. Surtout comme ça. Moi, c'est beaucoup. Les choses, pour moi, sont des choses évidentes. Donc, il ne me paraît pas évident qu'elles ne soient pas évidentes pour vous. Dans sa forme, la forme d'un sacrement. Et pour le mariage, c'est quoi la forme, tout ça? Et c'est pour ça que on propose pour le sacrement de mariage des formules qui nous rapprochent de la compréhension de la forme, c'est-à-dire là où la divinité du Verbe éternel Dieu comme épouse dans l'aspiration incrée de Dieu vient illuminer et se rendre présent dans la matière vivante du corps spirituel de l'au-delà de l'unité spensale. Ça s'appelle la transactuation, ça. Alors, je comprends pas ce que c'est que la transactuation. Est-ce qu'on peut avoir une voie d'accès pour nous introduire, nous engloutir dans ce que ça veut dire la transactuation, hein? C'est ça qu'on va poser comme question. Ce serait bien de savoir ça. Et ouais, c'est vrai, c'est sûr. Bon, d'abord ce qui est dogmatique, toujours, hein, ce qui appartient à l'infaillibilité de l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire que personne ne doit en discuter. Il y a une matière, une forme dans le sacrement de mariage. Et la matière.
Oh. Non, ça calme, hein.
J'ai l'habitude des chaises longues.
Ouais, c'est vrai que c'est aussi, ça.
Ça change. Je crois que j'ai la chaise longue aussi dans cette session.
Et oui, c'est ça, oui. Il est reparti adopter la position horizontale. La position horizontale. C'est... On essaie d'échapper à la position. Alors, il y a une spiritualité, vous savez, les cathos vautrés. Les cathos vautrés. Parce qu'on prend autorité sur un trône. Et on loue et on adore sur la position de l'amour. Et on l'aime. Voilà, on se prosterne dans la vie, prosterné. Alors donc, voilà, donc, c'est les quatre positions. Bon. Donc, reprenons. Notre but, c'est de sortir de la spiritualité des cathos vautrés. Mais quand on peut pas. S'asseoir sur le trône. Sans que ça fasse mal à leur névrax. Alors, pour moi, la position, si on veut être en position vautrée, la meilleure position, c'est la position embryonnaire. La position embryonnaire, c'est d'accord. C'est la position de Marthe. Recroupillé comme ça, et sur le côté. C'est vrai. Sur le couffin. J'aime beaucoup. Je trouve que cette position est très importante. Dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, je crois qu'elle a son importance parce que... c'est quand même des multitudes, c'est peut-être pas la totalité des gens qui prient, mais une très très grande multitude, une immense majorité écrasante. Et lorsqu'ils prient, ils ne sont pas dans le monde spirituel de la prière, ils sont dans un monde psychologique imaginaire. Ils imaginent qu'ils prient. Ils ont au moins l'intention, c'est déjà beau. Et c'est métapsychique. Dès qu'ils sont dans un état second, et qu'une fois qu'ils sont dans un état second, c'est un état auto-hypnotique, et quand avec Taïdo, c'est normal, puisque nous sommes des générations qui en grandissent dans des considérations qui déterminent leur conscience dans le monde psychologique, pas spirituel. Alors quand ça se développe, qu'ils ont la foi, qu'ils font des efforts, et bien ça développe en eux une spiritualité qui passe par les énergies, qui est christique, qui est métapsychique, à travers les états seconds. Ils ont l'impression d'être emportés dans la prière, puis en fait c'est métapsychique. Alors, donc on se met en position embryonnaire. C'est quand même le corps joue un rôle pour savoir si on est en métapsychique ou en spirituel. La position du corps pour vénérer le Père et l'Esprit Saint au pied de la croix. Vous avez vu qu'au pied de la croix, vous avez remarqué qu'au pied de la croix, qu'est-ce qu'il a fait Saint Jean? Il a vite été cherché un transat pour que Sainte Vierge puisse mettre au pied de la croix. C'est la première idée qui lui est venue à l'esprit. C'est sûr.
Non mais.
C'est pas moi qui ai
dit. Moi je te dis pas.
Non. C'est un abat. Debout. Bon, c'est beau. Et pendant ce temps, Saint Joseph était déjà assis dans le trône de l'autorité paternelle en crête de Dieu, dans le fond de la tête. Puis à genoux, qu'est-ce que vous voulez? J'imagine bien Marie-Madeleine à genoux, en train de s'abreuver des délices de l'affection du Christ pour les plus grands pécheurs. Et voilà.
Et le bon larron?
Le bon larron était suspendu, oui. C'est ça le principe de l'extase. Et en tout cas, le monde dans lequel on est, le monde métapsychique, là, pourquoi la position embryonnaire me paraît être juste, parce que, vous savez, il y a un lien dans l'unité du corps et de la conscience entre le cerveau intérieur et le névrax. Lorsqu'on vous met dans un état hypnotique ou catalytoïde somnambique ou métapsychique, ou du vin mokta, de religiosité si vous préférez, il faut pour ça opérer des actes qui vous permettent de déconnecter le cerveau intérieur du névrax. Une espèce de déconnexion qui se fait, qui correspond en même temps à une déconnexion donc des neurones, certaines lignes de neurones, et qui permettent précisément qu'il n'y ait pas l'unité entre les centres moteurs et l'intellect, agent qui déborde du cerveau intérieur. Alors du coup, comme il y a une déconnexion, l'intellect agent, au lieu de rayonner et pénétrer dans la substance de la vérité tout entière, se replie sur elle-même et rentre dans le monde métapsychique d'une vérité qui n'existe pas que dans le monde des énergies. C'est-à-dire une vérité fabriquée par Lucifer dans le monde cosmique. C'est ce qu'on appelle les énergies christiques. Et moi, j'ai donné le catéchisme à des enfants. Et je me rappelle, je leur parlais de ça. Et les enfants m'avouaient qu'effectivement, ils partaient en métapsychique quand ils dormaient. On leur apprenait la prière. Et puis au bout d'un an, ils priaient. Et puis... ils avouaient que quand ils priaient, ils avaient peur parce que Il y a quelque chose qui le prenait et puis il partait en astral. C'est terrible pour un gosse de 8 ans. Hein. L'éducation d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'image, donc c'est l'imaginaire. C'est la déconnexion. Hein, la déconnexion. Alors, je me rappelle que je leur expliquais toujours à tous ces enfants, vous allez faire la prière le soir. Mais la prière le soir, ne la faites pas sur le dos. Hein. Sinon, le démon vous prendra. Parce que je leur explique, parce qu'ils ont le droit de savoir comment fonctionne le corps, le cerveau, l'âme, l'esprit. Hein. Aujourd'hui, il faut enseigner ces choses-là. Mais à cause de ce qui se fait, quoi. Et donc, quand vous êtes sur le dos, la première partie, le sommeil, il monte comme ça petit à petit, ou il descend petit à petit. Hein. Si le sommeil vous tombe dessus, ou si c'est vous qui rentrez dans le sommeil. Mais de toute façon, si vous êtes sur le dos, à un moment donné, il y a une partie, par exemple, cerveau antérieur, qui rentre dans le sommeil, et névrax, qui reste éveillé. Ou l'inverse. Alors vous avez conscience de ce que vous vivez. Vous voyez bien que vous ne dormez pas encore, mais en même temps, votre névrax est complètement déconnecté. Et donc, il y a quelque chose métapsychiquement qui s'ouvre en vous, à l'intérieur. Et le monde, au fond, s'il n'y a pas une unité totale de l'esprit et du corps dans l'enfant, parce qu'on ne lui a pas appris à adorer, à se mettre à genoux, etc. Alors, à obéir aussi. Hein. Et bien, du coup, quand il est comme ça, hein, et qu'il prie, à un moment, sa prière se passe hors de l'unité des centres moteurs avec le centre, avec l'intellect agent dans le cerveau intérieur. Ça va, vous me suivez là-dessus. Et du coup, sur le toboggan, des fréquences métapsychiques qui circulent dans le cosmos, sur l'intérieur duquel circulent les puissances intermédiaires, hein, peuvent pénétrer dans sa prière et du coup emporter, à cause du fait qu'il est en train de prier, l'emporter et faire partir en astral et le mettre dans des états de terreur. Dit après, les parents disent, voilà, c'est beau ça, vous leur avez appris, regardez ce que c'est, vous leur avez fait. C'est pas quoi, les parents n'ont jamais dit ça, grâce à Dieu. C'est parce que j'explique aux enfants, quand vous priez, priez en vous endormant. Mais mettez-vous sur le côté. Comme ça, voyez, le sommeil vient. Et l'unité du névrax au cerveau intérieur est préservée jusqu'au sommeil complet. Et vous n'aurez pas de frayeur. C'est de toujours, d'ailleurs, dans la miche de pain, on trouve quelque chose comme ça. Moi, le catéchisme, quand j'étais enfant, c'était la miche de pain. Et l'enseigner sans expliquer pourquoi. Mais l'enseigner ça. Prier en s'endormant, mais en priant pour que ta prière dure 8 heures. Parce que si un esprit incarné s'endort dans la prière, sa prière dure jusqu'au réveil. Il faut prier 8 heures par jour, c'est une toute première leçon de catéchisme. Et c'est facile, il suffit de faire un effort pendant 2 minutes quand on s'endort. Voilà. Et c'est quelque chose qui. Commencer, il faut s'endormir à la nuit. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser surprendre, quoi. Parce que le démon est là. Et dans la mise de peur, on disait ça, on disait faire attention aussi, quand même, quand on s'endort. Hein? Pourquoi il y a des enfants qui sont terrorisés la nuit? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui sont terrorisés? Pendant des années, dès que je voyais un gosse, c'est la première chose que je lui posais avant même de savoir son prénom. Pourquoi est-ce que les enfants qui ont peur la nuit? dois savoir la réponse par cœur, mon petit garçon, parce que si tu sais pas ça, c'est parce que... Alors là, il écoute, parce que être heureuse et l'ami, c'est ce que c'est. Hein. C'est parce que ils ne savent pas qu'ils ont un ange gardien qui est là, qui les aime et qui les protège dans le ventre de la mère jouée. Et effectivement, tu t'endors comme ça sur cette forme embryonnaire et tu ne te mets pas en état de décollage métapsychique. Oui. C'est des choses toutes simples, de sagesse naturelle, puis de sagesse spirituelle. Voilà, se mettre comme ça en position brunière, je trouve que c'est beau ça, de comprendre ça. Et de comprendre pas seulement pour qu'on soit comme le petit enfant et qu'on retrouve le sacré, et puis se reposer. Dans le couffin, oui, dans le coussin. Le diamant ne nous atteint pas, là. C'est sûr. Si tu as l'intention, ce qu'on apprenait dans la miche de pain, qu'à la première instance tu te réveilles, le matin, immédiatement, à genoux, au pied de ton lit. Immédiatement. Et si l'enfant fait ça, il n'aura jamais aucune tentation de démon. Enfin, aucune invasion, aucune infestation, aucune... Il sera jamais ficelé, quoi. Il sera libre, il sera toujours dans les bras de la prière, dans la sagesse. La sagesse grandira en lui, hein, et la saveur aussi. Il sera en paix, et tant qu'il pourra grandir et faire grandir aussi. L'Église, il faut devenir des saints dès l'enfance, c'est sûr. Mais il y a une petite règle comme ça, oui. La position du corps joue un rôle, c'est évident. C'est vrai, c'est pas un rôle essentiel. Hein. C'est sûr. Quand vous assistez à cette messe, vous n'avez jamais vu le pape lever comme je fais souvent. Bon, prions le Seigneur. Même un prêtre franc-maçon ne ferait pas ça. Jamais. Pareil. Pendant la messe. Vous avez déjà vu ça? Dans le cœur, un diacre, un acolyte. Avez déjà vu une fois dans votre vie, si vous avez assisté à 10 000 messes, jamais. Bon, alors faire attention. Même si vous êtes malade. Hein.
Pourquoi?
Il n'y a pas de pourquoi. Pour une raison très simple, c'est parce que c'est une règle de Saint-Benoît, une règle monastique. Hein. C'est une règle de Saint-Benoît. Quand on est assis, c'est une règle juive aussi. C'est une règle juive. C'est que, pour la Pâque, tu vois, il faut que tu sois prêt à être immédiatement debout. Et dans la seconde, dans la demi-seconde, si tu as à te croiser, il faut d'abord que tu te redresses, que tu décroises tes pieds, puis ensuite que tu en as pour 4 secondes. C'est fini. Tu as le bâton à la main, tu es prêt. Donc si tu as les deux pieds par terre, tu es immédiatement debout. Tu es prêt. Tu es prêt à bondir, tu es prêt à bondir immédiatement. Voilà. C'est pour ça que jamais, hein, surtout quand tu es dans le cœur à la messe, tu ne croises pas. On ne s'installe pas, on court, on est prêt, on est prêt, on est comme l'oiseau sur son perchoir, prêt à s'envoler. C'est Saint Benoît qui explique ça. Hein. Donc ça s'inscrit quand même dans la coutume du comportement quoi, chrétien. Hein. Parce que ça a une signification dans l'espérance, évidemment. Voilà, donc je reviens donc sur la question qu'on peut se poser tout à l'heure, c'est l'expression dogmatique de l'Église sur le sacrement de mariage. La matière du sacrement de mariage, c'est qu'il faut qu'il y ait une unité humaine entre le fiancé et la fiancée. Il faut qu'il y ait entre eux une unité profondément humaine. Pas une amitié, parce qu'une amitié, c'est pas spontané. Il ne faut pas que ce soit une unité profondément humaine d'une association de deux personnes humaines. Parce que ça, c'est de l'amour de similitude. Vous comprenez ? Si vous êtes aussi amoureux que nous sommes deux homosexuels, deux homophiles, c'est pas ça la matière du sacrement de mariage. Il faut que ce soit une unité profondément humaine de l'homme et de la femme dans un amour de complémentarité. Et à cela, il y a plusieurs signes. Que c'est pas un amour de similitude, que c'est pas un amour passionnel, que c'est pas un amour artistique et que c'est pas un amour d'amitié. Ça peut être aussi ça, mais c'est pas ça le moteur. C'est pour ça qu'il y a quatre conditions pour la matière du sacrement de mariage, pour laquelle d'ailleurs le prêtre est censé vérifier et il le vérifie en effet. Sinon, il est en droit de refuser d'assister la bénédiction nuptiale dans le sacrement de mariage. Donc il vérifie l'existence de la matière du sacrement. Mais la forme du sacrement de mariage, eh bien, c'est pas le prêtre qui donne une parole qui fait que ces époux deviennent sacramentellement unis dans l'indissolubilité du sacrement de mariage. Ce sont les deux qui ont le rôle sacerdotal et qui se donnent à eux-mêmes à partir de l'au-delà de l'unité des deux, en matière du sacrement, se donnent à eux-mêmes le sacrement de mariage en présence du Christ et de l'Église, donc à l'intérieur du corps mystique de l'Église, à travers des paroles. Ces paroles, c'est ce qu'on appelle l'échange du consentement. Marie, je te choisis comme mon épouse. Et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement. Pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à la mort. Joseph, je me donne à toi. Je te choisis comme mon époux. Et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement, pour le meilleur, pour le pire, et jusqu'à la mort. Ça s'appelle l'échange de consentement. La main du prêtre est là, juste pour faire rebondir de manière sacerdotale en eux ces paroles sacramentelles, et les établir en eux dans une indissolubilité que même le pape ne peut pas briser. Parce qu'un sacrement est inviolable. Même le pape ne peut pas supprimer un sacrement. Voilà, donc voilà, ça vous avez la matière et la forme du sacrement. Mais une fois que vous avez le sacrement, que vous êtes ordonné prêtre, hein, voilà, pas un prêtre, vous pouvez célébrer la messe. Vous avez le monus sanctificandi, monus re Cozzenti, Sgoberandi. Donc vous pouvez utiliser ce sacrement, vous pouvez utiliser le sacrement de mariage aussi, puisque les deux seuls sacrements qui structurent la vie humaine, le seul sacrement qui structure un état de vie, pardon, dans la vie humaine, il n'y en a que deux, les cinq autres ne sont pas du tout, ne structurent pas. Sacramentellement, l'état de vie, c'est le sacerdoce. Et c'est le mariage. Et donc, il découle de là un monos, un pouvoir de sanctification, un pouvoir sur le gouvernement du monde. Enfin, vous lirez sa responsabilité de 2007 et surtout l'annexe 2. Le résumé du résumé du résumé du résumé. Et donc vous avez un pouvoir. Et c'est comme le prêtre, ben, il a le pouvoir, il prend l'hostie, il a le pouvoir d'une fécondité sur substantielle, transsubstantiation. Et une fécondité sur la substance. Il a une plus grande fécondité que le principe, que Dieu dans son principe créateur. Parce que Dieu dans son principe créateur ne peut pas changer la substance de ce qu'il crée. Parce que le prêtre, lui, a pouvoir pour changer la substance de ce qui existe. Transsubstantiation. C'est là qu'on comprend que la maternité divine de Marie a établi un principe nouveau dans le principe primordial plus grand. La transsubstantiation, c'est énorme comme pouvoir. C'est la substance qui devient une nouvelle substance à l'intérieur de la même apparence. Transsubstantiation. En plus, j'aime bien ce mot. C'est vrai. C'est étonnant. Et pour le mariage, on a aussi un pouvoir sur ce qui est à l'intérieur, métaphysiquement parlant, de laisser. C'est-à-dire de l'être, de l'existence, de l'être en tant qu'il existe. Notre existence dans l'indissolubilité du sacrement, notre existence de trois en un, un en trois, nous disparaissons dans l'au-delà de l'unité des deux, et de cette au-delà de l'unité des deux disparaît, s'accomplit et nous envahit entièrement dans une indissolubilité. Trois en un en trois nous permet d'avoir ce pouvoir de faire que notre mariage, notre sponsorité parfaite sur le plan de la nature, trois en un en trois, atteigne une perfection éternelle, celle de l'époux, la première personne de la Très Sainte Trinité, avec l'épouse, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, lorsque émane dans la dissolubilité de l'indivisité de Dieu la troisième personne de la Très Sainte Trinité. Donc l'acte de l'unité sponsale parfaite et accomplie, déjà libéré de toutes ses qualités péchés originels, est capable de se transactuer, c'est-à-dire sa perfection totale, peut laisser place en présence réelle à la perfection totale de la sponsalité ancrée, l'aspiration d'amour de l'époux et de l'épouse qui vont émaner l'Esprit Saint à l'intérieur de la Très Sainte Trinité. Ceci est le temps de l'Église. C'est un pouvoir de transactuation. Parce que l'acte, il y a deux grands principes qui expliquent ce qu'il y a à l'intérieur de l'essai, de l'existence des choses. Il y a la lumière, parce que l'existence, l'être, Dieu existe quand même. Je suis un être aussi de vie. Eh bien, l'intérieur de l'être, est-ce que je peux voir ce qu'il y a? Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur de l'être de Dieu? Est-ce que je peux rentrer à l'intérieur de l'être que je suis? Oui, je peux. Mon intelligence est capable d'y pénétrer et de découvrir la lumière de sa substance. C'est la première induction, on appelle ça l'induction de la substance. C'est le premier acte de l'intelligence humaine. Primo cadit in intellectus est. Mais une fois que j'ai fait l'induction, que j'ai découvert la lumière métaphysique qui illumine de l'intérieur ce qu'est l'être en tant qu'être dans l'ousia, la substance, je peux aussi aller encore plus loin et constater la perfection absolue métaphysique de cette lumière lorsqu'elle disparaît face à sa perfection elle-même. Il y a un principe final d'accomplissement, de perfection, d'accomplissement, de plénitude reçue. On ne peut pas, et on appelle ça l'énergie, l'intellectia. Je découvre une attraction installée déjà à l'intérieur de l'Osia, faisant même disparaître l'Osia dans sa cause finale. La lumière s'efface devant la perfection, l'accomplissement de l'essai. À l'intérieur de l'essai, je saisis qu'il y a une plénitude de bonté métaphysique en elle-même, accomplie en plénitude reçue. Je le touche, je l'induis. J'ai fait l'induction de l'acte. Vous voyez ? C'est beau ça. Cette induction-là est très importante dans le monde d'aujourd'hui. Puisque c'est par elle que je vois qu'il y a quelque chose dans l'existence de l'infaillibilité, pardon, de l'indissolubilité du mariage, déjà sur le plan naturel, et que cette perfection est métaphysique, elle est déjà indissoluble par elle-même, sur le plan naturel, et elle peut laisser place à une perfection. À une perfection analogue, hein, bien sûr, mais tout autre. C'est la transactuation. C'est un pouvoir que vous avez. Qui, disons, analogue au pouvoir du prêtre, qui a ce pouvoir de la transsubstantiation. Et c'est pour ça que quand vous dites, même si vous ne comprenez pas parfaitement, si vous l'avez entendu, ça suffit. Quand vous dites, unité spensale, surnaturelle, transactuation, divine, immortelle. Ces mots-là, au-dedans de vous, réalisent dans la dissolubilité 3 en 1 en 3 de votre mariage, la transactuation elle-même. Ce ne sont pas des paroles consécratoires, ce sont des paroles de plénitude reçue qui vont surabonder le mariage dans une perfection éternelle. Est-ce que ça va? C'est un pouvoir que vous avez. C'est un pouvoir que vous avez dans le sacrement de mariage et qu'il faut utiliser parce que c'est avec ce pouvoir-là que la cause finale peut pénétrer de la Jérusalem glorieuse de la fin vers le temps présent. Pour que la route vers la cause finale soit libre. Sans la sponsorité, il est impossible qu'il y ait l'apocalypse. Strictement impossible. Vous l'avez bien compris. C'est un pouvoir protéger. Imaginez un prêtre qui n'a pas la moindre idée de ce que c'est que la transsubstantiation. Je m'excuse, c'est un pauvre type. Et sur la terre, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on reçoit, il faut savoir ce qu'on en fait. Ça s'apprend. d'être un être humain. Ça prend d'être un être de peau, vous voyez. Le Saint-Père nous a expliqué tout ça. Peut-être qu'il faut, comme il nous l'a expliqué aussi, pour pouvoir le vivre en pleine lumière, en pleine conscience, en pleine liberté, en plein amour, dans l'acte lui-même de son énergie. Peut-être faut-il prendre d'abord pleine possession de soi, dans la plénitude de la signification sponsale, de notre innocence originelle, dans le don qu'on en fait dans la plénitude, de la pleine possession de soi. De notre moitié sponsale à l'intérieur, de la pleine possession de notre propre liberté dans l'ordre du temps. Pour réaliser l'essence de l'accueil du temps, peut-être. C'est pour ça que quand l'ouverture du temps va se faire, peut-être que la sponsalité ira de soi dans la transaction sur l'état responsable de l'Apocalypse. Mais je tiens à vous dire qu'il est nécessaire que l'Église en vive avant. Parce que s'il n'y avait pas eu Marie et Joseph, il n'y aurait jamais eu la plénitude des temps. Du premier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu Anéakim non plus. S'il n'y avait pas eu Rabbi Shimon Hanasi non plus. C'est ça. Voilà, et nous sommes nouvel Israël de Dieu pour l'ouverture des temps. Et il faut accepter ce que nous sommes. Si on a été choisi pour. On n'a pas besoin d'être des millions, franchement. Mais si on est là, voilà, nous avons été choisis. Nous te rendons grâce parce que tu nous as choisis pour servir en ta présence. C'est ce qu'on dit dans la prière eucharistique numéro 2. Alors, dire ceci est mon corps. Tu nous as choisis. Et on accepte d'avoir été choisi, je ne vois pas pourquoi on ne l'accepterait pas, il n'y a pas besoin de faire machine arrière, pas besoin de s'accrocher aux vieilles branches, de se replier dans le couple. Ah, il y a deux soleils, il n'y en a pas trois, bien si, il y a trois soleils. Bien sûr que c'est quatre soleils. Voilà. Et si vous n'avez pas le sacrement de mariage? Mais c'est tant mieux, parce que du coup, vous pouvez vous engloutir dans le sacrement de mariage de Marie-Joseph glorifiée et recevoir le fruit du sacrement de mariage de Marie-Joseph glorifiée pour faire la transactuation avec eux dans le fruit du sacrement de mariage. Et vous allez apprendre ça à nos enfants qui sont sur l'autel 200 milliards de fois. Chaque fois que vous l'apprenez à un, vous l'apprenez à tous. Et vous dites, je vous l'apprends 200 milliards de fois. Répétez souvent ça. Dès que vous vous adressez à un seul enfant, vous adressez à tous en même temps, chacun et à tous. Et je dis, je vous dis ça à toi. Je le dis 200 milliards de fois. Procès. Suisque omnibus. Pour lui. Et pour tous les hommes, et pour tous les siens, pour rédemptionner, libérons-nous pour la rédemption de leurs âmes, pour le salut qu'ils espèrent. Étant l'action de grâce immédiatement, toi, Dieu éternel, vivre et vrai. 200 milliards de fois. À un moment donné, vous le voyez très très bien, que la pluie, la rose, c'était 100, 200 milliards de fois dans chacun d'entre eux. C'est extraordinaire de le constater. Un jour, le père Emmanuel est rentré comme ça dans un ermitage. Il y avait un ermite qui avait 20 ans de vie spirituelle déjà. Ça était. Il voulait rentrer un moment. Hein. Il est rentré comme ça dans son ermitage parce que c'est nous, on rentre, on sort. C'est les uns, c'est les autres. Et puis, il rentre et il voit qu'il était dans l'oratoire. Et il était dans la position comme ça. La tête, le triangle, les pieds en l'air. Mmh. Et l'idée. Il dit, écoutez, nous cherchons Dieu. Je pense que votre place n'est pas parmi nous. Voilà pour faire. Ah oui, c'est la tête en bas, après tout. Et c'est une déposition. Hein. Vous savez qu'il y a 32 millions de positions dans l'hindouisme. 32 millions de positions. 32 millions de positions. Mais il y en a, disons, 40 qui sont les plus connues. Et seulement 5 qui sont les plus suscitées. Et c'est ça. Il faisait la suspension de son souffle dans son mantra comme ça. Et ses yeux étaient révulsés comme ça derrière. Et il était parti en métapsychique dans l'allaitement qui encerclait et qui enveloppait le tout.
Oh, mais là, on dit, mais c'est simple. On a eu quelqu'un qui est venu au monastère. Et là, il venait à notre fils, et on lui donnait la permission d'être là parmi nous. Et puis, il peut se soulever comme ça. Voilà. Alors, le père Abbé a dit, je vous donne la permission de vous vérifier. Alors, je suis sorti des stalles, j'ai mis la main en dessous, effectivement, il n'y avait rien. Il était au-dessus. Alors, le père Abbé m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez, père Emmanuel? Oh, je ne sais pas, je propose qu'il nous fasse cette démonstration-là dans la salle de chapitre plutôt qu'à la chapelle.
Alors le père Abel lui a dit, bon, je pionce que tu... C'est... Moi, je vous fais confiance, je pense que c'est intéressant, je pense, de lui faire faire cette expérience, je pense. Entendu, alors, le bouddhiste arrive à la salle de chapitre, il a mis la salle de chapitre. Et puis, le père Emmanuel dit,
bon, voilà, écoutez, mon cher frère, nous sommes... tellement heureux de vous avoir, de vous impressionner tout de même. Vous allez nous apprendre à aller comme ça monter vers le ciel, voilà. Parce que vous ne pourriez pas nous faire cette expérience. Tout de même, nous voulons progresser.
Alors le bouddhiste a commencé à faire ses états catalytiques de seconde unique. Et en très peu de temps, le père Joseph Fernand, il vous fait ça en moins d'une minute. C'est lui qui enseignait. Dans les colloques de l'âne, au gourou, machin truc, de Yann Bogdad à monter comme ça, en méditation. Alors le bouddhiste commence à. Le bouddhiste commence à salle de chapitre au milieu, là. C'est marrant, Comment ça, le chapitre commençait, hein, avec toute rigueur. Lui est enchanté, et là, il a fait sourire. Il commence à sourire.
Alors, le père Emmanuel, eh ben, alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un petit tapis en aluminium. Oups, j'ai glissé en dessous. Bon, il s'est écrasé par terre. Il n'y avait rien de spirituel là-dedans.
Il a rien. Un tapis d'aluminium, ça a coupé.
Ah ouais?
C'est magnétique, c'est tout. Je veux dire, c'est ondulatoire, ça n'a rien de spirituel. C'est vraiment rien de spirituel. Alors, tous les frères du monastère étaient roulés de rire.
Ils sont tous achetés un tapis.
Cœur au cœur.
Ce qui est cher, ce qui est esprit. C'est beau la sagesse de l'Église. C'est tout simple, hein, finalement, les choses. Il faut tellement de temps pour se laisser tromper. Et encore plus de temps pour revenir et guérir. Mais on est d'accord, hein, on est d'accord pour démarrer à partir de zéro et faire comme Saint-Joseph sans perdre une seule seconde pendant 19 ans avec les instruments du monde nouveau. Dans le cœur du roi, dans le cœur de la sainteté royale du Nouvel Israël, dans la mise en place du corps spirituel, le miracle des trois éléments, pour la destruction du mal, tout le mal qui s'approche de nous disparaît de notre terre et le vol est libre dans l'unité de l'un. Il faut leur apprendre ça, à vivre dans la liberté du temps, le sens de l'accueil. Et l'indivisibilité de Dieu, l'indivisibilité de la grâce. L'indivisibilité dans l'unité de la Jérusalem glorieuse et de son au-delà, dans l'agré avec la Jérusalem spirituelle et son au-delà dans la vision naturelle originelle. Faire l'unité en nous, c'est nous qui avons le lieu, qui sommes le lieu de l'unité avec le Père. À travers le corps. C'est très simple, finalement. On ne met pas de division, on ne met pas de dialectique, on ne fait pas d'opposition. Vous voyez, on ne met pas de yin-yang. Il n'y a pas de couple, non, non, il n'existe pas ça. De animus anima, enfin, ça c'est un truc dingue. La dialectique de la lumière vivante de l'or. Non, il y a l'unité de l'âme, du corps, de l'âme, de l'esprit. Trois en un, en trois. C'est beau ça, c'est vrai. C'est le chat de Beurat. Le chat. C'est ça, le ministère d'Israël. La messe que nous célébrons le soir, c'est pour que l'univers entièrement disloqué par mes coutumes et soi-même puisse avoir une voix à travers nous pour exprimer le mystère de compassion de Marie en lui et demander pardon. Pitié. Il faut absolument que les temps s'ouvrent, ce moment de nouveau. Et c'est la conjonction de la transubstantiation et de la transactuation surnaturelle qui permettent cette ouverture du temps. Et c'est pour ça que nous célébrons la messe du soir, la troisième messe du Triduum. Hein? L'opacité invasive du méchant doit être brisée par en haut. Les sept dents du Saint-Esprit doivent s'ouvrir dans l'accueil du paraclet qui est en son hypostase. N'est-ce pas vrai? Et moi, je suis content que tout le mal qui est de moi, c'est totalement détruit jusqu'au fin fond de l'univers, aujourd'hui. Vraiment, ça, je suis content de ça. Ça me... je trouve ça bien, quoi. Et en réponse... il y a le rayonnement du corps spirituel venu d'en haut, et qu'on puisse rayonner le monde nouveau dans tous les corps de manière tachycinique jusqu'au fin fond de l'univers, en action de grâce, dans la passivité de notre abandon à l'obéissance, dans l'humilité de la charité accomplie en plénitude reçue de l'Église tout entière en nous. Pitié mon Père, pitié mon Dieu, pitié mon Père pour ceux qui t'ont commis. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié mon Père, pitié mon Père pour ceux scandales du monde. Délivre-leur de l'esprit de Satan. Pitié mon Père pour ceux qui t'oublient. Pour ceux qui te fuient, donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie. Pitié, mon Dieu, pitié, mon Père, pour ceux qui viennent t'en demander pardon, pour ceux qui t'en demandent pardon, puis en repentir jusque dans la croix de l'orgueilleuse, qu'ils y trouvent la paix, la joie. Mon Dieu, leur sauveur, pitié, mon Dieu, que ton royaume arrive, sauve-les, il en est encore temps, le temps est arrivé, alléluia, le temps est arrivé, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, vainqueur du monde et du temps, ton royaume est éternel, Maranatha. Tu viens répandre sur le monde entier les trésors de ton infinie miséricorde. Par notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer dans la tentation. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus. Le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant,
je salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Entre toutes les femmes, je suis le fruit de vos entrailles, béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles. Et béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort.
Je salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort.
Je salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant,
je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Père, du Fils, du